Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans cette nouvelle émission Au fil des pages, je vous propose de parler de la matière et des matériaux, une manière ludique et concrète d'aborder la physique, la chimie, la biologie et la géologie. Car que ce soit dans le déplacement, l'alimentation, l'habitat ou encore l'art, la science est partout. Matière et matériaux, de quoi est fait le monde? C'est le titre de l'ouvrage dont nous allons parler dans cette émission. Et pour en discuter avec nous, les deux principaux auteurs et coordinateurs de cet ouvrage collectif sont avec nous, Béatrice Alvia et Yatine Guyon. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Béatrice Alvia, vous êtes biologiste, chargée de mission à l'Académie des sciences. Et Étienne Guyon, vous êtes physicien, chercheur à l'École supérieure de physique et de chimie, l'ESPCI, ancien directeur de l'École normale supérieure et également ancien directeur du Palais de la Découverte. Béatrice Alvia, Étienne Guyon, quel a été le moteur de la mise sur pied de cet ouvrage « Matière et matériaux » ?
Tout a commencé en 2006 autour d'un chercheur qui est très cher au cœur d'Étienne Guyon et qui est Pierre-Gilles de Gennes. Au sein de la délégation à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences, qui est dirigée par Pierre Lénard et à laquelle participe aussi beaucoup Yves Quéré, dans le sillage de la main à la pâte initié par Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992. Spécialiste de la physique, de la chimie, des sciences du vivant et de la terre, de la technologie, ont été réunis autour d'une même aventure, celle d'inventer une autre modalité, un enseignement scientifique intégré au bénéfice de jeunes élèves. Et c'est de là qu'est partie en 2007 cette aventure qui a réuni non seulement 8 chercheurs et scientifiques intéressés par la science et sa diffusion, et aussi qui a bénéficié de l'apport de pas moins de 80 chercheurs autour donc d'Étienne Guyon.
Le projet qui était initialement principalement dirigé vers les collégiens a pris beaucoup d'autonomie comme beaucoup. Le livre a grandi, s'est développé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il s'agit plus d'un ouvrage pour grand public cultivé, pour évidemment pour des enseignants de collège, de lycée, mais aussi pour simplement des curieux qui veulent savoir comment finalement le monde est fait à partir de cette matière et de ces matériaux qui ont été façonnés par l'homme en technologie ou qui existent naturellement dans la nature et dans les sciences du vivant et de la matière.
Ce sont les leçons de choses version 2010 ?
Tout à fait, oui, pour moi tout à fait.
Pour nous, il était important, comme le dit Michel Serres, de faire le lien entre deux langues, la langue vernaculaire que chacun utilise dans sa vie courante. Et bien sûr, nous sommes confrontés à toutes sortes d'objets qui sont faits de matière et qui deviennent des matériaux quand l'homme les utilise, mais aussi de confronter donc cette langue vernaculaire avec celle des scientifiques, celle que parle la communauté des chercheurs et qui a pour but l'universel. Donc cet ouvrage va bien au-delà de l'éducation et s'adresse à tous les curieux qui sont intéressés par le monde qui les entoure.
Et nous allons y rentrer tout de suite. Auparavant, vous avez une formule dans les premières pages de votre livre qui présente toute la difficulté de travailler sur la matière et les matériaux. La formule est la suivante. Des objets technologiques vivants, la greffe d'un rosier, des objets inanimés qui grouillent de vie, le banc en bois, un autre exemple, tout s'imbrique, c'est-à-dire naturel, artificiel, vivant et inanimé. Comment avez-vous sélectionné les sujets, Béatrice Alvia et Étienne Guyon? Puisque, pour nos éditeurs, je le précise, vous abordez 5 grandes fonctions. Le déplacement, la nourriture, l'habitat, l'habillage et l'art.
Contrairement peut-être à un ouvrage classique qui parle du petit, du microscopique, de comment s'organisent les atomes, de comment s'organisent les molécules, eh bien, nous sommes plutôt partis à travers ces 5 thèmes par une vision globale. Comment on se déplace? Voilà, comment on se déplace? Ça peut être un petit animal, ça peut être effectivement une girafe, mais ça peut aussi être des graines d'érable qui sont emportées par le vent. Et donc, c'est évidemment, les réponses sont très différentes. Donc, cette approche globale nous a conduit à évidemment introduire des savoirs qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement présents dans l'enseignement. Et puis souvent, on a piqué des problèmes au hasard. Et pourquoi les a-t-on piqués au hasard? Bien parce que j'ai personnellement la chance de continuer à être dans un laboratoire. Et le laboratoire, c'est un merveilleux espace de pêche à la ligne, parce que vous avez un visiteur, vous avez un séminaire que vous n'attendiez pas. Et moi, je veux dire que pour mes contributions, je dirais que peut-être pas la moitié, mais le tiers ou le quart sont venus par les hasards de rencontres, d'écoutes, de lectures.
Il était important pour nous aussi de penser la différence disciplinaire comme altérité et non pas comme infériorité. Et donc le travail que nous avons effectué a toujours résulté d'une concertation. Tous les textes ont été, bien sûr, au départ rédigés par un auteur, mais repris par tous les autres auteurs. Et nous avons travaillé 3 ans sur ces textes. Je crois que c'est de cette diversité que notre ouvrage tire son unité.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Débutons, si vous voulez bien, sur la matière de l'art et de la beauté, avec une première question sur les pigments naturels qui sont utilisés depuis les débuts de l'art pariétal, ces magnifiques fresques de la grotte Chauvet ou de la grotte de Lascaux. Alors, sans aller si loin dans le temps, arrêtons-nous sur l'Égypte antique. Comment les Égyptiens obtinrent le bleu et le vert si connus? Béatrice Salvia.
Le bleu et le vert égyptiens retiennent l'attention en raison de leur incomparable beauté, mais aussi de la complexité des procédés de fabrication. Les textes égyptiens ne donnaient aucune information particulière sur la fabrication de ces pigments. Et donc, les procédés ont été obtenus grâce à l'activité des scientifiques, des chercheurs du Centre de recherche et de restauration du Musée du Louvre, qui nous a ouvert grand ses portes et qui nous a permis de comprendre qu'il avait mis en œuvre différentes techniques, des techniques de spectroscopie, de microscopie diverses, de diffraction des rayons X, qui leur ont permis de comprendre comment étaient obtenus ce bleu et ce vert. Il est obtenu à partir de composés calcaires, siliceux et cuivreux. Le mélange est chauffé entre 870 et 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures pour donner une masse compacte. Et la couleur bleue est due à des cristaux d'une matière qui s'appelle la cuprorivaïte et qui comporte également de la silice sous forme de cristaux de quartz et de tridymite. Selon les conditions de chauffage, la couleur peut varier du bleu foncé au bleu pâle, mais il y a aussi une autre façon d'obtenir des différences de teinte dans le bleu. Et cette autre façon, c'est de broyer ce matériau. Si on effectue un broyage modéré, on aura du bleu foncé. Si par contre la poudre obtenue a une taille inférieure à 20 micromètres, eh bien on aura du bleu clair. Pour le vert, qui a été l'objet de controverses, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les mêmes ingrédients, mais dans des proportions différentes. Donc on a élucidé, grâce à la science, une question que les archéologues s'étaient posée depuis longtemps.
Alors, autre question toujours relative aux pigments. Aujourd'hui, les pigments sont synthétiques. Alors, comment sont-ils réalisés? J'imagine que les techniques de l'Égypte antique ont depuis changé.
C'est Bernard Valeur qui a essentiellement apporté sa contribution scientifique sur ce sujet.
Qui a écrit plusieurs ouvrages.
Qui a écrit plusieurs ouvrages chez Belin, d'ailleurs, sur ce thème. Donc, on peut dire que des résines acryliques, par exemple, ont été élaborées et qui absorbent jusqu'à 300 fois leur volume d'eau. Et on a ainsi pu fabriquer des peintures qui sont très différentes de celles qui existaient à l'époque de l'Égypte antique, bien sûr.
Alors, restons dans le domaine de la peinture. On parlait des pigments. Bien sûr, la peinture va avec. Comment conserver une peinture? En d'autres termes, quels vont être les ingrédients qui vont permettre de fixer la peinture? Étienne Guillon.
Oui, enfin, je peux dire qu'il y a plusieurs techniques, et effectivement le vieillissement qui nous touche tous, touche aussi les œuvres d'art, qu'ils soient accidentelles, une mauvaise manipulation, qu'ils soient simplement les effets de l'atmosphère ou simplement des modifications de température. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à faire que la surface soit suffisamment cohérente. Par exemple, on va recouvrir ces tout petits grains, ces pigments, on va les recouvrir d'une couche polymérique et puis on va faire en sorte que les molécules s'attachent entre elles pour faire une structure continue et compacte et qui va résister à ce vieillissement, mais elle n'y résiste pas toujours et que, évidemment, au cours du temps, la dessiccation, le fait de perdre de l'eau, va rapprocher exactement comme quand vous voyez un sol argileux qui, effectivement, se craquelle quand la sécheresse est devenue trop grande, donc ces craquelures vont se former. Et c'est assez intéressant, comme le disait Béatrice, de voir que des laboratoires comme le laboratoire du musée du Louvre s'intéressent aujourd'hui aux origines des craquelures sur la Joconde, par exemple. Et on s'aperçoit que la craquelure peut venir soit du fait que le peuplier, le bois de peuplier sur lequel la Joconde a été peinte, s'est un peu craquelé et que cette craquelure s'est reproduite jusqu'en surface, ou dans le cas de couches plus épaisses, que c'est tout simplement le fait que la structure de la peinture elle-même, en se desséchant, se resserre. Et évidemment, l'art n'est pas distinct du reste. Une céramique qui se craquelle, un visage, une peau qui se fripe et tout ça sont l'objet de cette agression du temps. Et de ce point de vue-là, il y a une science très, très active actuellement, qu'on retrouvera aussi bien au musée du Louvre ou chez L'Oréal, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, par exemple, qui va voir comment on peut traiter des surfaces pour limiter l'effet des agressions que le temps, l'âge, etc. vont donner.
Donc dans votre livre, on trouve à la fois l'art pariétal, mais également les cosmétiques.
Exactement. Les cosmétiques, c'est un art très compliqué, très complexe, et il ne faut pas croire que les cosmétiques sont utilisés de la même façon, d'ailleurs dans des peuples différents. D'ailleurs, je discutais l'autre jour avec les collègues de L'Oréal qui me disaient qu'ils avaient des laboratoires dans différents pays du monde, évidemment pour vendre leurs produits, mais aussi pour connaître de quelle façon les gens, en fonction de leur culture, en fonction du climat, etc., utilisaient des cosmétiques et qu'on ne faisait pas les mêmes formulations partout.
Alors, je vous propose d'avancer au cours de cette émission sur les autres chapitres, car ils sont nombreux et très diversifiés, chapitres de votre livre. Venons-en à la matière à se nourrir. Alors, il y a, je pense, Hervétis qui serait content d'écouter cette partie consacrée à pas mal d'informations sur la nourriture, notamment sur la mayonnaise. Alors, je vous pose la question, Béatrice Salvia, Étienne Huillon, la mayonnaise, comment ça marche?
Oui, alors Hervétis est un ami, j'étais dans son jury d'habilitation d'ailleurs, et nous avons eu beaucoup d'échanges sur la mayonnaise et d'autres sujets. Donc la mayonnaise est un exemple typique de ce qu'on appelle une émulsion. Une émulsion, ça veut dire qu'elle est exactement comme dans une vinaigrette, vous avez de petites gouttes d'huile dans de vinaigre, ou on peut imaginer le contraire d'ailleurs. Eh bien dans la mayonnaise, eh bien, on va faire en sorte qu'on ait cette représentation de plein de petites gouttes d'une des phases. C'est des phases qui ne s'aiment pas, c'est des phases huile et eau. L'œuf qu'on va mettre, c'est essentiellement une phase de type eau, qui aime bien, et puis qui est ce qu'on appelle hydrophile, et l'huile n'aime pas l'eau. Et bien pour faire que ces petites gouttelettes ne séparent pas, parce qu'elles ne s'aiment pas du tout, donc elles n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller chacun de son côté, ce qui se passe pour une vinaigrette que vous laissez reposer, et bien on va mettre des composés. Ces composés vont se mettre à l'interface, c'est-à-dire à la surface de séparation, et vont faire une petite couche astucieuse, parce que ces composés, dans ce cas-là, c'est la lécithine de l'œuf, un composé, va avoir une partie qui aime bien l'huile, et elle va se coller contre la goutte d'huile, et puis une partie qui aime bien l'autre côté, qui est une queue qui aime bien l'eau, et qui va se mettre de l'eau. Ce qui fait que l'eau n'y verra que du feu qu'il y a de l'huile, puisque ces lécithines, ces agents dits surfactants, vont avoir complètement enrobé l'huile et la cacher. Et comme ça, on va stabiliser effectivement ces petites gouttelettes d'émulsion. Et puis quand on va le battre, les gouttelettes vont devenir de plus en plus petites, elles vont faire quelque chose d'assez compact, un empilement de petites gouttes, de ces petites gouttes d'émulsion, et elles vont se tenir tellement bien que ça va avoir l'air d'un solide.
Donc faire de la mayonnaise, c'est être éminemment scientifique.
Ah, c'est totalement scientifique, c'est totalement scientifique. Il y a de la rhéologie, c'est un des chapitres de ce qu'on appelle justement, après mon ami cité Pierre-Gilles de Gênes, qu'on appelle souvent la matière molle. Parce que pour pouvoir manger, il y a intérêt à avoir quelque chose qui se tienne, mais qui en même temps soit assez déformable pour qu'on puisse le digérer, qui puisse être étalé sur une tartine ou sur un morceau de viande. Ou sur la peau, pas pour la mayonnaise.
Les émulsions que nous mettons sur la peau, on les trouvait sous le nom de Ceratum refrigerans au IIe siècle après Jésus-Christ. Et c'était cité par le médecin grec Claude Galien. Eh bien, ces crèmes que nous mettons résultent aussi de l'obtention d'une émulsion. D'ailleurs, dans le livre, on propose de fabriquer des crèmes de beauté et on explique comment ces crèmes peuvent être de qualité.
Effectivement, il y a une recette pour se faire une petite crème, une information très utile pour toutes les femmes qui nous écoutent. Restons dans le domaine de l'alimentation avant de passer, après notre pause, sur la construction. Restons encore quelques instants donc sur l'alimentation. Quel est le principe de la mousse dans les sodas et les bières, Étienne Guillon?
Donc là, encore un sujet qui a une longue histoire, mais une longue histoire qui a été revisitée encore par ces mêmes spécialistes de la matière molle. Tout part d'une bulle. Une bulle, c'est quoi? C'est de l'air entouré d'air, mais entre les deux, il y a une petite peau qui est faite une couche de ce savon, mais elle est double. Il y en a de façon à effectivement présenter vers l'air de part et d'autre la même surface. Donc, et quand vous allez mettre des bulles côte à côte, eh bien, ces bulles vont pouvoir s'accoler l'une à l'autre et vont former ainsi une mousse. Donc une mousse, c'est un ensemble de bulles. Alors ça, dans ces bulles, il y a la peau, une double peau plus exactement, de part et d'autre, et puis à l'intérieur, au milieu de l'eau, l'eau peut circuler, la bulle peut s'affiner. D'ailleurs, une bulle, vous allez voir apparaître progressivement des couleurs jusqu'au moment où elle va éclater, voir apparaître des couleurs, parce qu'elle devient de plus en plus fine. Eh bien, les mousses, elles, ces assemblages de bulles, il leur arrive exactement la même aventure, c'est-à-dire qu'elles se collent les unes aux autres et elles peuvent effectivement éclater. Et si vous voulez stabiliser une mousse, ce qui est intéressant effectivement dans les préparations culinaires, il serait intéressant là aussi de rajouter des choses qui font que ce mouvement soit ralenti. Donc on va mettre des choses qui augmentent la viscosité, c'est-à-dire augmentent la difficulté pour l'eau à circuler. Et on va pouvoir faire ainsi des mousses qui vont être très très stables, jusqu'au point que les mousses peuvent devenir ce qu'on appelle solides, c'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas. Et la mousse à raser que j'utilise chaque matin, elle évolue que très lentement. Et ça, finalement, ça relève des recettes. Mais enfin, le principe général, c'est qu'une mousse, ce sont des bulles à coller.
Il y a une expérience que l'on fait déjà depuis quelques temps, que l'on retrouve sur certains sites comme YouTube ou Dailymotion, qui est de mettre un bonbon dans du soda. Et là, alors là, il y a une fontaine qui jaillit. Pourriez-vous nous expliquer quel est ce principe?
Oui, alors il se trouve que j'ai été associé à de la recherche sur le champagne. Et c'est effectivement un problème qui était déjà très présent, qui est déjà très présent dans l'industrie champenoise, à savoir comment produire des bulles, pas trop, mais suffisamment, mais qui fassent un joli bruit quand elles explosent. Eh bien, c'est qu'il doit exister dans le verre, comme il existe dans cette bouteille de coca, disons-le, dans laquelle on a mis un bonbon Mentos, disons-le, puisque c'est quand même comme ça que ça a été présenté, il existe effectivement de très nombreux sites, de très nombreux points sur le bonbon de Mentos auxquels vont s'accrocher des toutes petites bulles. C'est très difficile de faire une petite bulle, c'est très facile de faire une grosse. Plus la bulle est petite, plus il faudra exercer une forte pression, on le sait, avec le bubble gum ou avec un ballon gonflable. C'est difficile de gonfler au départ, et puis après, quand c'est gros, c'est beaucoup plus facile. C'est la pression qu'il faut exercer, d'autant plus grande que le rayon est petit. Donc, si on n'avait pas les bonbons Mentos qu'on a mis, si on n'avait pas des toutes petites bulles qui existent naturellement, parce que le bonbon, c'est un agrégat de tout petits grains, eh bien, le Coca-Cola qui va contenir une douzaine, ou le Pepsi, ou tout ce que vous voulez, qui va contenir une douzaine de litres d'air à pression atmosphérique dans un litre, eh bien, il ne ferait pas des bulles. Il resterait comme ça. Mais l'existence de ces toutes petites bulles va faire ce que nous appelons, nous, en science, nucléer, permettre de démarrer des bulles beaucoup plus grosses. Et comme il y a beaucoup de ces petites bulles, ça fait démarrer énormément de bulles, ça se fait tout d'un coup. Donc ces 12 litres d'air ou de gaz carbonique qui sont contenus dans mon soda vont pouvoir partir très brutalement et très rapidement. Donc tout ça, c'est le principe de la nucléation et tout vient du fait que c'est très difficile de faire démarrer une petite bulle, mais que si on a des petites bulles au départ, dans la coupe de champagne, ça sera peut-être les résidus de tissu qui ont servi à essuyer la coupe, c'est ces petites bulles qui vont faire déclencher la création de beaucoup de bulles qui arrivent en surface.
Donc on pourrait faire la même chose avec du sable.
Oui, mais il faudrait que ça soit du sable très compacifié, parce que les petites bulles ont été bonbons, en l'occurrence, à des petits grains, mais les petits grains sont collés entre eux, mais pas suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'air entre les deux. Le sable serait probablement trop grossier. D'ailleurs, finalement, il y a une ambiguïté sur la notion de sabler le champagne, où il n'est pas très clair que c'est apparemment le sable qui, au départ, était utilisé pour faire partir les bulles.
En tout cas, si le verre est trop propre, vous n'aurez pas de bulles de champagne.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Avec l'émission « Les allusions historiques », amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission « Un jour dans l'histoire », à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Au fil des pages, toujours en compagnie de Étienne Guyon et de Béatrice Salvia, avec qui nous parlons matière et matériaux, de quoi est fait le monde. Dans cette deuxième partie d'émission, intéressons-nous au chapitre « Matière à construire ». Quelle est la composition du béton et pourquoi est-il aussi résistant ? Étienne Guyon.
Bien, le béton est un fait de ciment, hein, qui est une sorte de colle, auxquels sont ajoutés des grains de tailles très différentes. Et c'est une invention très ancienne, puisque le Panthéon de Rome était déjà construit en béton, une grande voûte de béton, qui a été oubliée, redécouverte au XIXe siècle, et qui connaît actuellement des développements technologiques considérables, ce qu'on appelle les bétons à haute performance. Et le secret est en particulier que pour avoir un béton très solide, il faut qu'il y ait peu d'eau. Elle est nécessaire pour prendre le ciment. Et pour qu'il y ait très peu d'eau, il faut que les grains remplissent bien l'espace. Et pour que les grains remplissent bien l'espace, il faut mettre un mélange astucieux de gros grains, de moyens grains, de petits grains et de poudre, jusqu'à des petites poudres qu'on appelle les fines de silice. Donc en mettant ces grains bien remplis, bien tassés ensemble, on va obtenir quelque chose qui est compact, c'est-à-dire qui ne laisse pas beaucoup de place à l'eau et qui en fait se tient bien. Et ces bétons à haute performance, maintenant qu'on va retrouver finalement dans le pont de Millau, qu'on va retrouver dans l'Arche de la Défense, ont révolutionné en quelque sorte les bétons. Et c'est gagnant-gagnant, parce qu'à la fois on a supprimé les fers qu'on mettait dans les bétons, qui font que toutes ces constructions d'après-guerre, on voit le béton à nu, et qui effectivement vont se dégrader très très vite, on a supprimé les fers. Et puis on a, comme il y a des tout petits grains, il n'y a pas beaucoup de trous. Comme il n'y a pas beaucoup de trous, l'eau ne pénètre pas et ils sont beaucoup moins dégradables dans le temps. Donc ces nouveaux bétons, et qui sont une révolution technologique largement due à la France, à des groupes industriels et des scientifiques, j'y ai participé personnellement, est un progrès considérable. Et maintenant, on peut même imaginer de faire des ressorts en béton, ce qui était complètement inenvisageable, parce que le béton, pour qu'on fasse un ressort, il faut qu'on puisse tirer dessus. Or, traditionnellement, les bétons, on pouvait les comprimer, mais si on les tirait, ils se cassaient. Voilà. Donc, c'est un des sujets qui est lié aux matériaux en grain, qui est lié à la technologie, qui est lié à la construction.
Autre question relative à la construction, comment éviter qu'un édifice ne s'écroule sur lui-même ?
Ben oui, ça, c'est le secret. Et la dame nature l'a trouvé, le monde animal l'a trouvé. Béatrice pourra nous donner un exemple. Et dans la construction faite par les humains, eh bien, il a fallu faire des structures qui, effectivement, telles qu'on les voit, des armatures. Et souvent, le secret de ces structures, qui est d'ailleurs un peu le secret de ce qu'on trouve dans notre livre, c'est qu'il faut faire des structures à des tailles différentes. C'est-à-dire que c'est pas simplement mettre tous des briques les unes contre les autres qui ont la même fonction, c'est finalement de faire des structures hiérarchiques. Et c'est-à-dire qu'on va faire des petits assemblages, ces petits assemblages, on va les mettre avec des grands, et des grands, on va les mettre avec des très grands, et tout ça va faire un tout qui va se tenir.
Béatrice Salvia.
Étienne connaît très bien le problème du flambement. Lorsqu'on prend une carte à jouer, par exemple, et puis qu'on appuie dessus, qu'on exerce une forte compression en la tenant entre le pouce et puis l'index, par exemple, il y a un moment où la carte se met à plier. Eh bien, chez les animaux, par exemple, on pourrait penser que le cou de la girafe, qui supporte aussi une énorme compression, se met aussi à flamber comme ça. Et la nature, si on peut dire, a bien fait les choses, mais bon, sans être finaliste, on va constater que le cou est constitué de vertèbres superposées et non pas d'une tige d'un seul tenant. Et donc, le rôle des muscles va être aussi de maintenir cette structure et de la rendre flexible, mais va empêcher le flambement.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce que dit Béatrice, évidemment, est tout à fait exact, et que le muscle qui va être maintenu en tension, qui va maintenir l'ensemble en tension, et par contre, et l'ensemble de ces petites vertèbres qui sont en compression, réalise un équilibre. Qu'est un mot un peu savant qu'on doit à un architecte canadien, Buckminster Fuller. Ce mot, c'est la tenségrité, c'est-à-dire c'est la superposition de la mise en tension de ces muscles, dans cet exemple particulier, mais ça pourrait être dans l'architecture, et de la compression des os ou d'une barre, va créer un équilibre, mais très dynamique.
Je connais déjà les réponses, mais je vous la pose quand même, Étienne Guyon et Béatrice Salvia. Est-ce que la symétrie est une condition nécessaire pour l'aplomb d'une structure?
Oui, elle n'est ni nécessaire, ni suffisante. C'est vrai qu'on retrouve des belles structures symétriques dans la nature qui vont réaliser, comme un nid d'abeilles, qui vont réaliser une certaine structure commode et qui remplit bien l'espace. Mais ça n'est absolument pas nécessaire. Et d'ailleurs, il suffit de voir les constructions du Bauhaus en Allemagne, que c'est des constructions absolument asymétriques. Mais il y a quand même des principes de symétrie ou d'équilibre qui sont dans la nature et dont les architectes ont su faire leur profit. Mais ce n'est pas la symétrie dans le sens qu'il faut que la gauche et la droite se ressemblent. Ce n'est pas du tout ça.
Béatrice Salvia, sur cette
question. Il suffit de regarder la Sagrada Familia à Barcelone et les œuvres de Gaudi pour avoir la réponse à votre question.
Oui, mais tu as raison. Mais en même temps, quand on regarde les arches de Gaudi, qui ont cette forme en voûte qu'on appelle une caténoïde ou une chaînette, elles répondent à un principe. Ce n'est pas exactement
vrai,
la symétrie, mais il faut qu'elles répartissent l'effort, elles évitent, ce qui se trouve à Notre-Dame de Paris ou ailleurs, elles évitent d'avoir à faire des arcs boutants, c'est-à-dire qu'elles tiennent toutes seules. Mais ce n'est pas exactement pour la symétrie, c'est une bonne distribution des efforts pour éviter que ça pète.
Et la répartition des forces.
Et la répartition des efforts et des forces.
Venons-en à un autre chapitre qui figure bien sûr dans votre livre, qui s'intitule « Matière à se vêtir ». Question relative à un slogan d'une publicité. Peut-on laver plus blanc que blanc ? Béatrice Salvia.
Alors, tout d'abord, les fibres de coton apparaissent jaune pâle tout simplement parce qu'elles absorbent la lumière du violet et du bleu. Et pour compenser cette absence de bleu, eh bien, on a eu l'idée de rajouter des colorants bleus. On connaît les boules bleues à base de bleu guillemets dans l'histoire, qui étaient obtenues avec de l'outremer de synthèse. Mais aussi plus astucieuse, on a eu l'idée d'imprégner le tissu avec un colorant organique qui émet de la fluorescence dans le bleu. Voilà.
Donc, oui, c'est ce qui fait que quand je vais tous les samedis soirs au bal, qu'on me fait de l'éclairage UV, mes chemises blanches ont l'air très brillantes. C'est parce qu'elles ont aussi une émission au niveau de l'ultraviolet.
Donc dans les lessives, ces petites billes bleues permettent de laver plus blanc que blanc, c'est ça ?
Et oui, ces colorants organiques fluorescents entrent dans la composition de toutes les lessives, ou en tout cas de la plupart des lessives.
Restons dans le domaine du tissu. On ne va pas citer de marque, mais il existe des tissus hydrophobes, c'est-à-dire que les petites gouttes de pluie ne rentrent pas dans le tissu. Comment crée-t-on un tissu hydrophobe ?
Alors, la première façon de créer un tissu hydrophobe, c'est le ciré du marin. Hein. Vous mettez tout simplement sur le tissu, vous l'imprégnez d'une substance qui est hydrophobe. On a parlé tout à l'heure à propos des émulsions, c'est-à-dire qui n'aiment pas l'eau. C'est-à-dire que si je mets une petite goutte d'eau sur sa surface, la goutte d'eau, au lieu de s'étaler, va faire une petite boule, elle va rouler sur la surface. Et pour qui a fait cet usage de cape cirée, il peut savoir combien c'est désagréable, parce que quand il ne pleut pas beaucoup, vous avez beaucoup plus d'humidité qui vient de l'intérieur et de votre sueur, si vous marchez, que qui vient de l'extérieur. Et vous avez évidemment des inventions nouvelles qui coûtent très cher, d'ailleurs des brevets bien protégés, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a énormément à inventer encore sur les problèmes de textiles et de tissus, qui sont tels que l'eau liquide qui vient de l'extérieur ne rentre pas, donc ça c'est l'effet du ciré de marin, si vous voulez, mais que l'eau intérieure, c'est-à-dire notre sueur en particulier, va pouvoir passer au travers sous forme moléculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas des gouttes d'eau qui sortent, ce sont des molécules d'eau, donc c'est un passage à sens unique où l'eau va pouvoir sortir et ne va pas pouvoir rentrer. Et tout n'est pas fini. Et vraiment, je crois que c'est intéressant de noter sur ce chapitre que, pour ma part, j'ai découvert, en allant visiter en particulier avec passion l'école de textile de Mulhouse, c'est que c'est un sujet. On dira, bon, mais c'est pas de la grande science. Eh bien, si, il y a énormément de science, de technologie, au point d'ailleurs que la découpe d'un vêtement, d'un soutien-gorge, mesdames, est une œuvre d'art dans laquelle on va mettre beaucoup, beaucoup de petites pièces côte à côte pour réaliser un galbe particulier. Mais ça intéresse énormément les mathématiciens pour lesquels ces problèmes de forme et d'application d'une surface, c'est-à-dire un tissu, sur une forme, disons un ballon de football, pour rester neutre, est un problème extrêmement intéressant. Voilà. Donc, je crois qu'il y a énormément à faire sur tous les sujets des matériaux, et en particulier sur ce sujet des tissus, des textiles et du vêtement. Et c'est très intéressant, et j'étais à l'Institut Henri Poincaré avec un des grands mathématiciens de ce demi-siècle, qui s'appelle M. Thurston, qui est un médaillé Fields américain, qu'on considère comme un grand mathématicien, où le séminaire était avec une paire du ciseau, du papier et du scotch pour pouvoir accorder bout de papier ensemble.
Si vous voulez bien, poursuivons cette émission en abordant l'un des derniers chapitres de votre ouvrage consacré au déplacement, matière à se déplacer. Que l'on roule, que l'on vole ou que l'on glisse, tout n'est-il qu'une question de frottement, Étienne Guillon ?
Oui, le frottement est évidemment partout et c'est une science extraordinaire, ce qu'on appelle souvent la tribologie. Mais évidemment, chaque domaine, que l'on soit dans l'air, dans l'eau ou sur terre ou marcher, évidemment, le frottement se manifeste de façon différente. En particulier dans l'air, ben, pour voler, il faut plus que du frottement, il faut ce qu'on appelle de la portance. C'est-à-dire, il faut être maintenu en l'air et non pas tomber sous son propre poids. Donc, je crois qu'effectivement, nous avons été amenés à faire une contribution, je dirais pas originale, parce que une contribution qu'on ne trouvera pas dans les manuels scolaires sur comment les choses frottent, glissent. Banal, mais qu'on n'apprend jamais à l'école.
Et que vous présentez dans votre ouvrage.
Ah ben oui, on le présente même en détail. Et en fait, la personne qui a démarré cette étude était Léonard de Vinci, qui s'intéressait aux machines, et qu'il a fallu attendre 1950 pour à peu près comprendre comment tout ça fonctionnait.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie d'énergie. Quelle serait la meilleure manière de se déplacer tout en utilisant le moins possible d'énergie ?
Pour ma part, qui suis parisien, je dirais la bicyclette. Je vais vous faire un aveu, la bicyclette, c'est encore très savant, pas la mienne à Paris, parce qu'il faut avoir une vilaine bicyclette, comme ça on est sûr de ne pas se la faire voler. Mais le pneu, l'industrie du pneu, est une industrie extrêmement savante, et j'ai eu l'occasion de travailler avec le plus grand producteur de pneus en France, et un des plus grands au monde, pour comprendre que les pneus intelligents, ça peut exister, c'est-à-dire des pneus qui à la fois doivent très peu frotter quand on roule, mais doivent beaucoup frotter quand on a envie de freiner. Et ça a l'air complètement antinomique. Et pourtant, on sait faire.
Béatrice Salvia, sur cette question de déplacement, on parle des oiseaux, on parle de la roue, de la bicyclette, mais il y a également le déplacement des plantes, et notamment des samars d'érable, ces petites ailes d'hélicoptère qui permettent de disséminer les graines. Alors, est-ce que les plantes se déplacent ?
Oui, bien sûr. Petit fruit de l'érable que nous avons tous fait tourner dans les cours d'école, eh bien, ce sont des objets vraiment d'intérêt pour différentes disciplines. Et c'est un peu là l'image de tout le travail qui a été fait dans cet ouvrage. Ce travail d'interdisciplinarité, de regard croisé de différentes disciplines sur un même objet. Alors, on peut donner cet exemple pour dire que, donc, bien sûr, l'interdisciplinarité a besoin des disciplines pour exister, mais que les disciplines ont besoin de cette interdisciplinarité pour évoluer. Donc, l'exemple de ces samars interroge donc d'une part les biologistes, parce qu'évidemment, on peut s'intéresser à la nature de cet objet, à son mode de dissémination, à la façon dont la plante pourra coloniser des milieux. On peut comparer différentes espèces et savoir lesquelles se dissémineront le mieux. Le physicien est intéressé aussi parce que quand elle tombe dans l'air, eh bien, cette samara tourne sur elle-même. C'est une petite aile d'avion qui tourne sur elle-même à une fréquence de 15 à 30 Hz, c'est-à-dire 15 à 30 tours par seconde sur elle-même. Et tout cela a des applications technologiques. Pourquoi ne pas s'inspirer de cet objet, du vivant, pour fabriquer des mini-hélicoptères, des drones, des parachutes qui exploiteraient cet effet de rotation ? Et je laisse la parole à Étienne.
Oui, le parachute, ça me ferait un petit peu peur. Le parachute tournant, on essaye plutôt d'éviter.
Mais
ce qui est intéressant dans cet exemple particulier, c'est que j'ai découvert cet exemple par une conférence et une lecture dans Science, le journal américain Science, de 2009. C'est-à-dire que, pour dire notre livre est d'actualité, il ne le restera peut-être pas, la personne qui a étudier cela et qui a d'ailleurs comparé ça au vol du colibri, qui est le vol sur place. C'est un physicien qui travaille dans la grande université hollandaise de Wageningen, la grande université agronomique, et qui correspond à du travail de recherche de 2008-2009. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et on a essayé de le montrer dans notre livre, c'est qu'à la fois vous avez un sujet extrêmement ancien, classique, l'observation de Béatrice dans sa cour d'école, et néanmoins pour lesquels des explications sont toujours ou récentes, ou encore à venir. Ça veut dire que la recherche, et cette recherche telle qu'on peut la faire sur le matériau et dans d'autres domaines, il y a encore plein de places ouvertes, plein de choses à trouver. Et beaucoup d'exemples que nous avons donnés étaient des exemples que nous aurions été incapables de donner il y a 10 ans.
Et nous ne sommes pas loin, là non plus, des intuitions premières d'un certain Leonardo qui a inventé des machines volantes.
Oui, mais sinon ces machines, elles ne volaient pas. Il n'a jamais réussi à les faire voler parce qu'il manquait les petites quelque chose. Il avait des intuitions sur la turbulence, mais lui manquait des composants. Et il manquait autre chose à Leonardo. C'est que les matériaux, si Leonardo avait disposé à son époque de ces matériaux extrêmement légers et résistants qu'on a maintenant, peut-être que certaines machines auraient volé. J'en suis convaincu, il suffit d'aller au Clos Lucé, où il a fini sa vie, et de voir les modèles de ces machines, et j'y ai souvent réfléchi, puisque je suis mécanicien des fluides en particulier, pour me dire qu'est-ce qui manquait, à la différence de la mécanique des solides pour lesquelles ces machines marchaient, ce qui manquait, c'est d'avoir des matériaux légers. Ce qui fait qu'à delta plane, fonctionne, ce qui fait que le parachute, déjà, c'est parce que tout ça, c'est extraordinairement léger à cause des nouveaux matériaux, des nouveaux textiles.
Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Dernière question qui s'adresse à tous les deux. Quelle serait la remarque d'un lecteur qui vous ferait le plus plaisir ?
Peut-être qu'il n'a jamais vu aborder justement la matière et les matériaux sous cet angle-là et avec ce regard qui est, d'après ce que nous disent les lecteurs, à la fois original et innovant.
Oui, moi j'aurais envie de faire une autre réponse. Ah oui, vous n'avez pas pensé à tel autre effet que j'ai observé sur les matériaux et qu'il faudra mettre dans la prochaine édition.
Donc vous allez faire une prochaine édition, c'est ça, c'est le message.
Ben, le livre est bien lancé et on espère qu'avec la nouvelle édition, on aura peut-être quelques découvertes nouvelles à rajouter et des découvertes proposées par les lecteurs.
Alors, premier tome, Matière et matériaux, de quoi est fait le monde, aux éditions Belin, collection pour la science, publié en 2010. Merci à tous les deux et puis alors j'espère à bientôt pour le prochain volume de votre ouvrage. Merci à tous les deux.
Merci à vous, Élodie.